Les creux de maison. Troisième partie, chapitre 7. Les cloches. Bableu mourut au commencement de mai. Le dimanche qui suivit l'enterrement, Séverin, étant de garde aux Arolettes, détacha les vaches sur les 9 heures et les conduisit vers la lande, aux abreuvoirs. C'était à 500 pas du village, un mauvais pacage situé au flanc d'un coteau très raide. Il n'y poussait que du genêt, de la bruyère et, au printemps, un peu d'herbe dans les bas. Les abreuvoirs étaient des fossés toujours remplis d'une eau noire et froide, où s'enfonçaient les images pâles des peupliers de bordure. Il y avait une charrière du côté de la route. Séverin alla s'y asseoir, les genoux au menton, face au soleil et à ses bêtes. Les cloches au bourg carillonnaient dans l'air jeune. Leur voix passait, avec le vent frais, semeur de vie. Et cette musique du dimanche et cette musique du printemps venait avec une douceur de caresse sur la campagne verte pleine d'éclosions mystérieuses. Séverin songea à un autre bruit de cloche, morne celui-là, à une pluie de notes tombant lourdes comme des pierres de démolition. Et il dit en lui-même, avec une sorte de colère contre les cloches de ce jour qui étaient joyeuses, « C'est cela. Cabotez, vous autres, cabotez donc !» Des larmes filtrèrent entre ses paupières qu'il avait fermées à cause de la lumière crue. « Ding, dong, cabotez donc, pour la fille et le garçon !» Pourquoi ce refrain de son enfance à présent lui revenait-il ?« Ding, dong, cabotez donc !» La pâturelle chantait cela jadis, pour l'amuser. En même temps, elle tapait sur la crémaillère avec la pelle à feu. Et le rythme était le même, des notes secouées là-bas dans le bleu et de celles secouées en lui par le souvenir. C'était un rythme lent et monotone qui berçait. Ding, dong, ding, dong. Peu à peu, Séverin perdit sa pensée comme quelqu'un qui va s'assoupir. Un ronflement grandissant le fit sursauter. Une automobile arrivait à grande allure. Quand elle fut devant la charrière, elle s'arrêta, et le monsieur qui était au volant interpella Séverin. « Hé, l'homme » fit-il. « Cette route mène-t-elle à Bressuire ?»« Oui, monsieur, si l'on veut. »« Est-elle bonne sur tout le parcours ?» Séverin fit un geste vague qui ne signifiait pas grand-chose. Comme la voiture recommençait à ronfler, il entendit une voix fraîche qui devait être la voix d'une femme toute jeune, rieuse et très étourdie. Cette voix disait au monsieur qui avait parlé « Te voilà bien renseigné. Il est fou, ce vieux. » Vieux. Il n'était pas vieux. Il avait 48 ans. Elle avait dit cela, cette petite dame, à cause de la posture qui lui faisait le dos rond. Quand il était debout, il était droit comme un jeune, et sa force était encore grande. Il tenait de son défunt père une résistance incroyable au mal et à la peine. Bien qu'il eût eu parfois ses misères comme les autres, il ne s'était jamais plaint. Il n'avait jamais un seul jour abandonné le travail, et cela n'avait pas empêché les siens de souffrir de la faim. Non, son corps n'était pas vieux. C'était son âme qui était vieille et bien malade. Auguste, le matin, lui avait dit par amitié, « Allons, Séverin, prends courage. Ton plus mauvais temps est passé. » C'est vrai qu'il avait des chances maintenant de vivre plus à l'aise. Les républicains, qui l'amignonnaient depuis qu'il n'était pas fou de messe, lui avaient expliqué tout ce que ceux de leur idée avaient fait et comptaient faire pour les pauvres. Jusqu'à présent, les bonnes lois avaient surtout profité aux pauvres des villes, mais ceux des champs allaient avoir leur tour. Il était même question de leur donner des retraites comme aux gendarmes et aux employés. De plus, les gages montaient. Beaucoup de vallées avaient en effet quitté le bocage, et ceux qui étaient partis ainsi pour le pays de Charente ou pour la ville n'étaient pas tous des paresseux, comme le disaient les riches qui ne travaillent jamais, et, après eux, les gens qui n'entendent rien aux choses de la campagne. Il y avait parmi ces émigrants des jeunes hommes courageux qui partaient à regret, et ce qui les effrayait et ce qui les faisait fuir, ce n'était pas l'existence trop calme, les journées trop remplies de labeur obstinée, c'était bien plutôt la certitude de ne jamais profiter de leur peine. C'était la dureté inconsciente des gens qui possédaient la terre. Les vallées qui restaient n'étaient donc pas toujours les meilleures, et les fermiers avaient grand-peine à trouver des compagnons à la fois intelligents et vaillants de corps. Séverin ne manquerait jamais d'ouvrage. Il était tranquille de ce côté. Enfin, les deux Besson commençaient à lui apporter leurs petits gages. Il allait payer ses dettes. Bientôt, avec les 5 enfants qui poussaient, il recevrait une belle somme à la Toussaint. Mais le malheur pouvait passer encore. Il y avait aussi cette Georgette qui savait trop de choses et que les gamins suivaient déjà dans l'espérance de mauvais jeux. Quand les mères sont mortes, les filles sont un gros tracas. Ton plus mauvais temps est passé. Hein, ce qui était passé, c'était sa fierté et aussi un peu son courage. Il était là. Cela ne lui faisait rien d'être à peu près sûr de gagner sa vie. Ding, dong, ding, dont la chanson des vieux jours cabotait en son cœur. Toute sa pensée était en arrière, vers celle qu'il avait aimée et qui était morte. Elles étaient 3, et leurs images étaient en lui en même temps. C'était d'abord la pauvre Paturelle, morte de la toux au temps de la guerre. Il revoyait sa figure douce et triste, et il se rappelait des choses puériles. C'était ensuite la joie de sa jeunesse, la jolie meunière aux yeux d'eau, la bonne compagne, plus brave que lui-même et plus gaie, la bonne compagne qu'un rêve de bonheur pour les siens avait tuée. C'était enfin la dernière, la petite qui ressemblait aux 2 autres et qui avait été plus malheureuse qu'elle. Celle-ci, il la voyait pieds nus avec un bissac sur le dos. Il ne regrettait plus d'avoir volé pour elle. Il redisait tout bas son sobriquet de misère. « Bas bleu, ma petite bas bleu, tu n'iras plus aux portes, tu n'auras plus jamais froid. Tu dois être heureuse maintenant. Bas bleu, je voudrais te rejoindre. Je voudrais être couchée dans la terre tiède, là-bas, au coin du cimetière, à côté de toi, à côté de ta mère et à côté de ma mère à moi, que tu n'as pas connue. » et qui te ressemblait. Il avait de la religion. Il n'ignorait pas qu'il est question dans les prières d'un paradis et d'une vie d'après. Mais ce sont des idées qu'on a parce qu'on a peur, ou parce qu'on aime, ou parce qu'on est plein d'orgueil. Dans le fond de son cœur, il n'y croyait pas. Il savait comment les choses se dissolvent dans la terre, et sa vision se précisant soudain, il eut un frisson d'horreur. Il s'efforça de penser autrement. Il lui vint des idées comme il en avait, étant enfant. Il se disait, « Peut-être tout de même qu'elle me voit. » Il y avait dans le fossé, devant lui, des fleurs pâles qui s'ouvraient comme les yeux limpides de sa défunte, et d'autres plus sombres, violettes, presque noires, qui étaient toutes pareilles aux yeux de son enfant. Et quand il levait la tête, il lui semblait distinguer des formes humaines aux franges des nuages, des formes blanches, gonflées de lumière, qui s'étiraient et se perdaient comme les images fugitives des rêves. À Coutigny, les cloches recommencèrent à sonner, leur voix joyeuse passa encore sur les cimes émues. La terre était à son heure de grande beauté. Les peupliers chantaient. Leur chanson était un peu monotone, mais très douce et, pour ainsi dire, féminine. C'était une chanson bien différente de celle des chênes et plus différente encore de celle des châtaigniers, à travers lesquels corne et siffle la musique du diable. C'était aussi une chanson séculaire, car les anciens du pays avaient toujours vu des peupliers dans ce bas-fond. Ils étaient très serrés les uns contre les autres. Quand le vent les prenait de face, ils ployaient tous à la fois, ils tremblaient, ils arrolaient de la tête aux pieds. C'est à cause de cela que l'endroit s'appelait les Arolettes.